Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Vous faites de la peinture depuis 52 ans, je crois.
Au moins.
Au moins. Vous avez donc dû changer de manière un certain nombre de fois depuis...
J'ai toujours fait de la peinture, les manières ont changé toutes seules, sans m'en apercevoir énormément.
Vous pouvez pas nous les décrire, ces manières successives?
Ce serait très difficile que je vous les décrive, n'est-ce pas, étant donné quand j'ai fait des choses différentes, n'est-ce pas, il n'y avait pas de nom employé pour les qualifier, n'est-ce pas, les spécialiser dans un moule ou dans une manière différente.
Oui, mais tout de même, vous êtes passé de l'abstrait au figuratif quelquefois.
Je vais assez peindre... figuratif, alors j'ai fait des choses abstraites, et après j'ai eu assez des choses abstraites, et j'ai fait des choses figuratives.
Vous avez eu une époque mécanique, je crois.
Ah oui.
C'est-à-dire,
ça m'a intéressé de peindre des choses mécaniques et de chercher des machines qui ne servaient à rien.
Oui, vous les représentiez, ou bien vous les inventiez?
La plupart du temps, je les ai inventées.
Oui.
On est un ingénieur qui ne sait rien, ça n'a aucune utilité.
Oui. Et puis... de l'art abstrait au figuratif en passant par la machine.
J'ai fait des superpositions, qu'on appelait superpositions.
Francis Picabia, 1879-1953.
Et vous avez introduit quelquefois le macaroni, je crois, et les nouilles même.
Ah oui, parce que j'avais pas de couleur. Alors comme je voulais faire un tableau tout de même, j'ai pris du macaroni, j'ai pris des cure-dents parce que je trouvais que ça allait aussi bien que les couleurs.
Et vous avez fait quoi avec ces cure-dents et ces macaronis?
J'ai fait quelques tableaux, il y en a un qui est exposé chez Drouin,
oui.
Qui était chez Doucet, n'est-ce pas? Ça représente ce qu'on appelle une nature morte, n'est-ce pas? J'ai rendu la plus vivante possible en employant des macaronis et des gurdons.
Oui. Vous avez été quelquefois en Espagne, je crois, pour voir les grands maîtres, et vous n'êtes pas arrivé jusqu'au bout.
Non, parce que j'ai rencontré un joueur de billard qui m'a beaucoup intéressé. Alors, en descendant à Madrid, nous avons été jouer au billard. J'ai passé 3-4 jours avec lui. Je joue au billard, je suis rentré à Paris.
Vous n'êtes pas allé au Prado?
Non, j'avais complètement oublié.
Bardachi, qu'est-ce que vous pensez de Picabia, que vous n'aimez pas du tout?
Oui, il faut qu'on règle son compte à ce type immédiatement.
Alors, je sais que vous aimez beaucoup Dada, le mouvement Dada.
Ah bon, on vous a dit ça? C'est parfaitement dans la logique dadaïste, qui n'aime pas Dada et pour Dada. Donc, qui n'est pas pour Picabia et pour Dada, et vice-versa.
Alors, qu'est-ce que Dada, en quelques mots?
C'est un label, c'est une étiquette, en fait. C'est une très bonne question, parce que... c'est effectivement pas une école. Et c'est là où Picabia prend toute son importance, puisqu'il fait partie, dans la constellation, c'est une étoile bien singulière. Évidemment, c'est pas un dadaïste type, mais il n'y a pas de dadaïste type, heureusement. Donc, c'est QFD.
L'œuvre, écrite et peinte de Francis Picabia, riche en volte-face et d'une révolte permanente, montre admirablement toutes les crises de notre siècle, préoccupées de repenser la modernité de façon radicale. Provocateur, artiste sans doute, poète et initiateur de la revue 391, désormais légendaire, il affiche d'emblée une faillite du poignet. Il peint donc vite, très vite, et il est très vite célèbre. Mais le plus important est la rencontre de Francis Picabia et de Marcel Duchamp, qui est l'une des grandes aventures du XXe siècle. Les deux amis, ensemble ou séparément, nous obligeront à regarder autrement le langage et l'objet.
C'est l'esprit qui virevolte, c'est l'opposition qui s'appelle la vie, c'est le refus de la narrativité en tant que code qui enferme la pensée, c'est la construction par la destruction, et la destruction par la construction. C'est... Bon.
Mais est-ce que très vite, Picabia ne se trouve pas dada, et meilleur dada que Tsara?
Mais dans la mesure où le mouvement est précisément fait d'une série d'individus qui se complètent et qui sont très différents les uns des autres, et c'est ça la grande liberté de ce mouvement et de sa grande richesse, justement, non. Pour quand même saisir le sens de votre question, c'est vrai que Picabia est plus dada que dada, dans la mesure où c'est un personnage mondain, c'est un personnage virevoltant, c'est un personnage à grande voiture de luxe, c'est un personnage qui connaît tout le monde à Paris, c'est un personnage qui fréquente les procureurs de la cour d'appel, et aussi bien Marchenal ou tel couturier, etc. Et donc, il est évident que dans l'image qu'on a de dada, ce personnage-là n'est pas typiquement ce qu'on appelle un briseur de siège de concert ou de... C'est le personnage qui est dada avant d'être dada aussi, puisque au fond, il est à New York en 1913, au moment de l'Armory Show, qui, comme vous savez, est plus connu à cause du nu descendant en escalier de Marcel Duchamp que des propres œuvres de Picabia à ce moment-là dans l'Armory Show. Mais Picabia est quand même un personnage déterminant, puisqu'à ce moment-là, il est ami de Stieglitz, ami de toute l'avant-garde new-yorkaise, mais surtout, une fois qu'il quitte New York, il va faire la jonction avec les dadaïstes de Zurich, donc avec Tristan Tzara. Et là, c'est quand même extraordinaire, parce que c'est lui qui fait venir Tzara de Zurich à Paris, et là évidemment, le pétard prend le feu d'artifice, puisque c'est un peu le destin de Joyce aussi, quand il quitte Zurich pour arriver à Paris, finalement, la gloire de Dada se fait à Paris. Enfin, sa consécration, si j'ose ainsi m'exprimer.
Michel Sanouillet, Francis Picabia a un itinéraire très compliqué qui donne du fil à retordre à la définition de l'artiste. Alors, comment commencer pour parler de Picabia ?
Ah bien, je crois que Picabia est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on ne peut commencer en aucun point précis de la trajectoire. Commencer sa biographie par la naissance et finir par la mort, enfin, ça ne correspond absolument pas à l'image que je me suis faite, en tout cas moi, de l'homme.
L'homme est turbulent.
Il l'a été. C'est-à-dire qu'il a été à la fois tout et son contraire. On a dit tellement de choses sur Picabia.
C'est un homme libre et qui a soif d'expériences nouvelles.
Ça, très certainement. Ça, c'est physiologique chez lui. Je crois que il s'ennuyait facilement, très facilement. Et je crois que la source, la raison fondamentale de ces changements qu'on a attribués à toutes sortes de raisons de Picabia, c'est l'ennui. Que ce soit les femmes, les voitures, les mouvements littéraires, dès que quelque chose se répétait et menaçait, et le menaçait dans sa forteresse d'ennui, ça, immédiatement, c'était la fin. Il rompait, alors plus ou moins vite, plus ou moins brutalement. Quelquefois, c'était une sortie discrète à la Cocteau, n'est-ce pas ? Ou alors, quelquefois, c'était la rupture brutale, un peu comme Duchamp, d'ailleurs, quand il exposait sa pissotière aux indépendants de New York.
Moi, je vais dire quelques méchancetés sur Picabia.
Jean Le Gac.
Pas par plaisir, mais parce que pour essayer de nettoyer constamment cette image, parce qu'il me semble qu'elle est fixée dans l'histoire de l'art et qu'elle n'est pas remise en cause. Par exemple, relisant le catalogue avant de venir ici, on y dit toujours très rapidement « Dada s'insurge contre l'ordre bourgeois » et plaf, nous voilà partis dans une belle histoire. Et alors je me dis, mais l'ordre bourgeois, qu'est-ce que c'était, enfin ? Parce qu'enfin, Picabia, lui, sort de la grande bourgeoisie. Son meilleur ami va être Duchamp, qui, lui, est de la petite bourgeoisie de province, mais quand même quelqu'un qui est de la bourgeoisie. Ils vont tous les deux vivre dans cet univers-là toute leur vie, même s'ils font quelques esclandres, mais c'est toujours bien vu, ça, dans la grande bourgeoisie. Ça, je ne trouve pas là matière à surprise. Alors je me dis... C'est, pour moi, la question est ça. Ils se sont insurgés contre quoi ?
Mais pourquoi au début, faisiez-vous de la peinture qui n'était pas figurative?
Parce que j'ai eu assez, n'est-ce pas? J'ai pensé que les moyens mécaniques, n'est-ce pas, nous remplaceraient. Et j'ai eu besoin de faire de la peinture, n'est-ce pas, qu'on appelle abstraite maintenant, mais dont je ne savais pas du tout ce que c'était, puisque je n'en connaissais pas le nom.
Vous étiez tout de même un peu solidaire de l'impressionnisme au début, je pense.
Oh, tout à fait.
Tout à fait.
Tout à fait. Je veux dire, j'ai fait de la peinture, moi, à l'âge de 17 ans, j'ai fait des tableaux. J'ai même exposé au Salon d'automne, j'avais 18 ans.
Mais vous avez été dadaïste avant Dada.
Eh bien, c'est-à-dire, j'ai fait des choses qui sont concrétisées avec le mot Dada. Par le mot Dada.
Et qu'est-ce que c'était que ces choses?
Ces choses, c'est tout aussi bien la façon de vivre, la façon de se coiffer, la façon de penser.
À la façon de se coiffer, je crois que vous avez un exemple à donner à ce propos.
Ah ben, j'ai l'exemple de mon ami Marcel Duchamp qui est arrivé un jour pour dîner avec moi et s'était fait raser une étoile sur la tête. Il s'était fait faire une grande étoile, une coupe spéciale. Il l'avait fait absolument pour lui et un peu pour moi aussi. Ça nous a amusé tous les deux.
Et, c'est
et
ça,
il n'a
Dada.
Pas été très gêné avec son étoile. Donc il était très dadaïste parce qu'il faisait ça absolument pour lui.
Et après Dada? Qu'est-ce que vous avez fait après Dada?
Oh ben, j'ai fait du Picabia.
Vous avez fait du Picabia. Et comment c'était le Picabia d'après Dada?
Ben, je voudrais bien savoir ce que...
Mais qu'est-ce que vous pensez des portraits qui en fait représentent des mécaniques ou des mécanismes extrêmement sophistiqués?
Alors on sait son amour des machines.
Donc ce qui est intéressant chez Picabia, je vous interromps, c'est qu'il déplace la sexualité ou l'érotisme.
Oui, ça c'est réel. Et surtout, sur le plan formel, il va y avoir quand même une avancée incroyable. Et je vais l'expliquer peut-être tout à l'heure, si j'y arrive. Une avancée incroyable, c'est qu'au fond, il copie assez habilement des morceaux de moteur. Il le fait avec du dessin industriel, un peu plus artistique, parce qu'il utilise l'aquarelle et il s'applique un peu moins. Il n'utilise pas l'encre de Chine. Il ne doit utiliser l'encre de Chine. Mais surtout, ce qu'il met, et de manière manuscrite surtout, ce sont des légendes ou des titres. Et là, se fait une chose brutale dans l'histoire de l'art, c'est qu'un titre, à lui tout seul, peut changer l'esprit complet d'une chose qui peut être réactionnaire, d'une chose qui, dans un autre contexte, ne surprendrait personne. Voilà que, subitement, ça va jouer un rôle. Genre, on peut se dire, mais alors, si c'est le titre, débarrassons-nous de l'image, c'est impossible. Le titre en lui-même ne serait rien. L'image en elle-même ne serait rien. La conjonction des deux, voilà que ça va produire quelque chose de drôle, quelque chose de terriblement décapant. Et là, il va avoir, lui et Marcel Duchamp, vont avoir une influence énorme sur l'histoire de l'art qui va se dérouler pendant tout le siècle. Le texte est introduit et n'en sortira pas de si longtemps.
Enfin, sa préoccupation, quand même, c'est de faire une sorte de grand écart, de concilier ce qui s'écrit et ce qui se dessine, ce qui se peint.
C'est un vrai dadaïsme en ce sens que c'est quelqu'un qui, avant d'aborder une ornière dans le domaine de la culture, justement avant d'être écrivain ou avant d'être poète ou peintre, quelqu'un qui a une réflexion antérieure. Et quand il utilise un médium, il l'utilise absolument pas comme il est reçu. Il l'utilise pas comme une donnée reçue. Donc effectivement, c'est un grand transformateur. L'expression a été utilisée pour d'autres, par d'autres. Mais c'est réellement quelqu'un qui précipite les choses. Et c'est vrai que il est seul à avoir publié d'emblée de sa propre main ses poèmes avec ses propres dessins. Et les poèmes de La fine et sans mère, par exemple, sont des bijoux absolus. C'est quelqu'un qui, dans le même mouvement, a réinventé les choses. Le personnage est très riche puisqu'il a écrit ses principaux recueils, il les a écrits à Lausanne avant même qu'on connaisse les recueils de Tristan Tzara. Lui-même était un ami de très longue date d'Apollinaire, donc c'est quelqu'un qui a été formé à la toute grande école de l'avant-garde française, puisque je crois qu'Apollinaire est le grand fondateur de la tradition d'avant-garde en France. Et il a aussi connu, comme vous savez, Marcel Duchamp à l'époque du groupe de Puteaux, Duchamp, Duchamp-Villon, donc il fait partie aussi de la première génération des dadaïstes, c'est-à-dire ceux qui sont nés en 1885. Et alors ce côté mondain, oui, c'est quelqu'un qui a su incarner la, la gauche caviar du mouvement Dada. Il est évident que dans le même temps, Tsara était sans ressources à Zurich et que lui était logé dans une clinique de luxe chez un neurologue où je crois qu'il se remettait autant de ses excès d'alcool que de cocaïne, du reste. C'est une chose qu'on élude assez systématiquement dans l'étude de l'avant-garde, sans doute à tort, sauf quand on évoque Michaud, par exemple.
C'est quand même un être dépressif, mélancolique.
Oui, il y a beaucoup d'allusions au suicide dans son œuvre, ça m'a beaucoup frappé. Et quand on lit les textes, oui. Là, je vous ai retrouvé un petit texte. Là.
Pendant que vous cherchez le texte, est-ce que vous pensez d'un personnage comme Picabia qui transforme la femme en moteur, en machine?
Je pense d'abord qu'une chose qu'on oublie toujours, c'est que ça a beaucoup influencé Marcel Duchamp et La mariée mise à nu. C'est une chose que, curieusement, on ne relève pas très souvent. Et je pense qu'effectivement, Picabia a bien su jouer de ce côté érotique. Assez cocaïnomaniaque, d'ailleurs. Ça se retrouve aussi dans les poèmes de la machinerie amoureuse. Et ça se...
Amoureuse délirante.
Oui.
Dirions-nous ouais. Aujourd'hui.
Oui.
Imaginez la rencontre Francis Picabia, Marcel Duchamp, qui est importante et qui les accompagne au fond de toute une vie.
Ah oui, c'est d'ailleurs, je crois, l'événement, à mon sens, l'événement intellectuel du XXe siècle. Hein, c'est la rencontre Picabia-Duchamp, la rencontre et la collusion qui s'est poursuivie pendant 30 ou 40 ans.
Et elle a lieu à Puteaux.
Oui, à Puteaux, au moment de la section d'or. C'est quand même curieux d'imaginer la famille Duchamp vivant dans ce petit pavillon de banlieue à Puteaux, avec donc toute une famille d'artistes, Duchamp-Villon, l'homme du cheval majeur, avec Jacques Villon, sa sœur Suzanne, qui était également peintre. Et quand on voit la photo de la famille Duchamp à Puteaux, on ne peut pas s'imaginer que ces gens-là vont révolutionner les concepts même de l'art contemporain. Et bien pour Picabia, je crois que c'est un peu la même chose, parce que c'est le contraire. C'est-à-dire que Picabia est l'anti-Duchamp et Duchamp est l'anti-Picabia. Je ne veux pas dire que Picabia n'était pas organisé, conscient, n'avait pas d'idée très précise sur ce qu'il faisait, qu'il agissait par pulsion, simplement. Mais je ne veux pas dire non plus que Duchamp, contrairement à ce qu'on a dit, n'était pas un homme extrêmement généreux. Mais Duchamp était fils de notaire, un homme extrêmement économe, conscient d'une notion qui est très, très, très actuelle, qu'on retrouve dans le hasard et la nécessité de Monod, c'est la notion de relais. C'est-à-dire que c'est le rapport entre l'acte posé et le résultat de cet acte. Alors, pour Duchamp, n'est-ce pas, il l'a d'ailleurs écrit dans une espèce de texte de poème, tout doit être comptabilisé, et tout peut avoir des résultats incontrôlables. Alors pour Picabia, c'est presque le contraire. Lui,
ça
dépense. Il faut dépenser, il faut se faire voir. Non pas, on a parlé de Picabia le dandy, c'était pas ça exactement. Mais enfin, c'est les voitures, c'est l'ivresse de la vitesse. Bon, il faisait Paris-Nice en 10 heures à l'époque en voiture. En TGV, on met 7 heures maintenant, hein. Il écrasait des poules, il comptait. C'est un monsieur qui, je crois, a dû vouloir vivre la vie au maximum, sous toutes ses formes. Alors que Duchamp, au contraire, c'est un homme qui est toujours resté dans la plus stricte réserve, pas du tout, qui fut quelqu'un de très sérieux, c'est un monsieur que j'ai fréquenté pendant une vingtaine d'années. Mais la forme d'humour de Duchamp, c'était cette espèce de méta-ironie dont il parle constamment, c'est le sourire de la Joconde. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a peint la Joconde si souvent avec ou sans moustache, avec ou sans barbe, parce que il s'identifiait non pas à la Joconde mais à son sourire. Son regard sur la vie, c'était un sourire, si vous voulez. Alors que Picabia, c'est pas ça du tout. Bon, c'est le grand rire qui risque d'offusquer pas mal de gens. Et il le fait avec grand plaisir. Alors, il dépense, comme vous dites.
Il aime le scandale.
Il aime le scandale pour le scandale. Alors que Duchamp, si vous voulez, aime le scandale à retardement. Il n'a pas exposé dans une galerie à grand renfort de presse une roue de bicyclette, mais il avait dans son petit atelier une roue de bicyclette qu'il a montée sur un tabouret. Et puis quelqu'un l'a vu. Et puis, alors ça, c'est le mythe Duchamp que j'assimile au mythe christique, qui est absolument inexplicable et qui n'existe pas pour Picabia. Ça, je crois que c'est la grande différence. C'est que Duchamp a produit très peu de tableaux, enfin de tableaux, d'œuvres, entre guillemets, alors que Picabia a peint énormément, Picabia aimait la peinture. Alors que Duchamp s'en est lassé très rapidement, il parlait de l'intoxication par la térébenthine, vous savez. Enfin bon. Picabia, au contraire, était content d'avoir des chevalets, des toiles devant lui, à toutes les périodes de sa vie, jusqu'à sa mort. Vous savez, ces dernières toiles, c'était des toiles abstraites, où il y avait une abondance de couleurs. Il y avait davantage de matière et de désir de manier la matière chez Picabia.
Oh, nous avons été très amis d'abord, très très amis, et entre 1911 et 14 surtout, ça a été pour nous une explosion. Nous, c'était assez comme les deux pôles, si vous voulez, chacun ajoutant quelque chose et faisant éclater l'idée par le fait qu'il y avait deux pôles. Étant seul, il aurait été seul, j'aurais été seul, peut-être que moins de choses se seraient produites dans nous deux, comprenez-vous ?
Marcel Duchamp.
Chez nous, il n'y avait même pas cette idée de s'inscrire nulle part. Nous ne voulions pas nous inscrire. Nous étions Dada beaucoup plus que Dada, parce que nous aurions détruit Dada aussi, si nous avions pu, comprenez-vous ? Il y avait l'idée simplement de ne s'inscrire nulle part et de ne pas briguer aucune notoriété, comprenez-vous ?
Jean Le Gag, vous aussi, vous vivez une sorte de triangle. L'image, la photographie, le texte, la peinture à l'huile, la peinture à l'eau, l'aquarelle. Et Picabia inaugure aussi ce genre de triangle. C'est-à-dire, c'est un artiste, mais dont la définition reste quand même à trouver. Il est du côté de la peinture, il est dans le scandale, il crée une revue, 391, il écrit des poèmes. Et au fond, il disparaît aussi au monde. Par exemple, à un moment donné, il rompt avec Paris, il s'installe sur la Côte d'Azur.
La Côte d'Azur, oui. Il retrouve son monde, là, à ce moment-là.
Hein, un autre monde.
Les comtesses et les admiraux. Oui, dès que le texte est introduit dans l'image, dès que ces éléments hétérogènes sont mis en évidence, il est sûr que c'est la porte ouverte à beaucoup de recherches qui vont être faites par eux et puis par d'autres artistes après. Cela introduit un art sans nécessairement des pinceaux et de la couleur. Un peu comme si, subitement, on découvrait que c'est pas chez le marchand de couleurs que va se trouver l'art, mais que l'art, ça se trouve dans l'esprit humain, ce qui n'a pourtant est une évidence. Michel-Ange avait ça en tête, c'est sûr, et tous les grands artistes également. Je ne sais pas pourquoi il y a eu une amnésie comme ça à la fin du 19e siècle, après les peintres-pompiers. Pourtant, il y a eu les impressionnistes qui ont commencé à penser. Peut-être pas tant qu'on le croit, après tout. Je ne sais pas pourquoi il y a eu cette amnésie qui fait qu'il a fallu que brutalement, c'est les artistes comme Picabia et Duchamp réveillent un peu tout le monde en leur montrant que c'était l'esprit qui était important et que c'était pas les petits trafics du métier, les petites combines d'atelier, ainsi de suite. Et lui, il en savait quelque chose puisqu'il est passé pratiquement par de l'enseignement académique, l'impressionnisme, le cubisme, le fauvisme, enfin, il est passé par toutes les strates.
Hein. Dada.
Et puis Dada, bien entendu.
Et la figuration.
Oui, l'abstraction en même temps. Enfin,
la figuration qui est un peu la nôtre, enfin la vôtre.
Si on parle de la figuration, vous voulez parler de celle des années 30, qu'on a cachée si longtemps, parce que moi, avant 1976, j'ignorais totalement ça.
30, 40, Vichy, et jusqu'à 53.
Oui, c'est vrai. Ça, c'est la fascination, je dirais, pour aller vite, pour l'image du cinéma, je pense, c'est l'image de la photographie. C'est pas par esprit réactionnaire. Quand on parle de ces peintures-là et qu'on parle de leur dessin académique, on a tort. Parce que ce dessin ne s'est jamais enseigné à l'académie. Cet éclairage, ce type d'éclairage ne s'est jamais enseigné à l'académie. Donc il y a là l'influence quand même de quelque chose qui est moderne, qui est le cinéma, la magie de la lumière.
Picabia est amoureux de la vie, mais est-ce un grand peintre ?
C'est une question piège, parce que je pense à un très grand mauvais peintre. Et je pense que notre devoir là est d'être iconoclaste. Je pense que c'est une peinture sublime, mais qui a les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que quand Picabia effleure les choses, il y a plusieurs stades, il y a plusieurs phases. Il a ses périodes transparentes, il a ses périodes mécaniques. Et il aborde tout avec beaucoup de délicatesse, mais donc pas du tout avec cette profondeur théorique qu'on aime tellement aujourd'hui dans les œuvres d'un Schwitters ou d'un Malevitch. Et je veux dire, Picabia me fait penser à la légèreté très appréciable, hein, c'est pas ici péjoratif, d'un John Armleder aujourd'hui.
Je vous interromps, Marc Dachy. Est-ce que la fin de Malevitch n'est pas un peu celle de Picabia ? Ce qu'on appelle la figuration à la fois chez Malevitch, au fond, et chez Picabia.
Oui. Il y a eu chez tous ces peintres et artistes qui ont accompli des très grands sauts conceptuels dans leur œuvre, il y a eu forcément des moments de tassement. J'ai pas besoin de vous rappeler tout de même que chez Malevitch, ça s'est passé sous la pression extrêmement violente du régime qui s'est mis en place, et que Malevitch d'abord est mort d'un cancer et il craignait à tout moment d'être arrêté. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, Meyerhold a disparu. On a su seulement plusieurs années après qu'il avait été fusillé. Et donc, c'était quand même un climat très, très différent des fastes cannois du yacht de Picabia en rade de je ne sais quel port luxueux en Méditerranée. Et je pense que Picabia pouvait même se permettre dans son jeu de... En plus, je trouve que la question est très complexe, parce que la toute dernière période de Picabia est une très belle période. Justement, alors...
Vous pensez à quelle période ? Enfin, la figuration ?
La dernière toile que Picabia a peinte, figurez-vous, qu'elle s'appelle « La Terre est ronde », comme un texte de Gertrude Stein. Et il connaissait Gertrude Stein, par exemple. Et d'ailleurs... C'est très intéressant, cette relation que Gertrude Stein. Mais les œuvres de l'époque font penser un peu au commencement de Pollock ou de Cobra. Et c'est d'ailleurs assez contemporain. Et je trouve que les transparences, par exemple, sont des très très belles œuvres aussi. Je pense qu'on assistera à une réévaluation de Picabia, mais avec des critères qui ne sont évidemment pas ceux qu'on a en ce moment dans l'histoire de l'art en général.
Mais que veut dire un très grand mauvais peintre ?
Bien, je pense que les faiblesses de l'œuvre sont propulsées, sont utilisées de manière esthétique, anecdotique, mais de manière très intéressante. C'est-à-dire que les transparences ne sont pas une très grande invention, mais en fin de compte, si on se laisse un peu éduquer le regard par l'œuvre de Picabia, et si on se laisse un peu porter par effectivement cette légèreté, cette façon d'effleurer les choses, il y a un fonctionnement dans lequel on peut entrer. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui fonctionne en soi avec beaucoup de pertinence.
Peut-être que c'est celle qui me fascine le plus, peut-être parce que je peux la voir le plus aisément, puisqu'elle est à Paris, c'est la Grande Unie, qui est à Beaubourg, cette toile orphiste. Qui n'a pas son égal, à mon avis, en 1913.
Carole Boulbès.
Et qui, c'est ça le plus amusant, je trouve, avait été laissée dans un grenier, enroulée par Picabia. C'est seulement, à la fin de sa vie, dans les années 50, qu'on a pensé récupérer cette toile.
Qui représente quoi ?
Cette toile unie. C'est un souvenir d'un voyage, du voyage que Picabia avait fait pour se rendre à New York lors de l'Armory Show. Et il avait été fasciné à ce moment-là par cette traversée, et également par une danseuse qui dansait à moitié nue. Enfin, ça, c'est un petit peu la fantasmagorie qui entoure le sujet. Et donc, il a essayé, une fois rentré à Paris en 1913, de restituer ses impressions, ses souvenirs. C'est un travail qu'on peut dire mnémonique. Et en ce sens, oui, c'est une œuvre... Bon, on a du mal en la regardant, bien sûr, à comprendre ce qu'il a voulu faire, mais c'est une œuvre abstraite et qui marque, à mon avis, un grand tournant dans l'œuvre de Picabia. Il paraît d'ailleurs qu'il l'a brossée, il l'a peinte dans un état de fureur, qu'il s'est enfermé dans son atelier, c'est ce que dit sa femme, Gabrielle Buffet, et qu'il en est sorti avec deux chefs-d'œuvre, une Nid et Taunisle, qui fait partie aussi de ses préoccupations de 1913.
Et qui représente quoi ?
La même, ça représente un ecclésiastique, c'est encore le souvenir sur le transatlantique. Mais, oui, ça représente, mais il ne faut plus chercher le souvenir photographique de la scène. C'est une suggestion par les lignes, les couleurs, et donc à la limite de l'abstraction.
Je crois qu'on peut dire que la grande majorité des tableaux de Picabia sont des tableaux qui sont ouvertement érotiques. Je dirais malheureusement pour certains d'entre eux, un peu plus tard, quand il fera des tableaux alimentaires, où l'on verra des femmes très déshabillées vendues à des dignitaires marocains pour des raisons alimentaires. Mais d'ailleurs, le grand verre de Duchamp est un grand œuvre amoureux.
Bon, donc incestueux.
Incestueux également. La machine.
La broyeuse de chocolat.
La broyeuse de chocolat qui se trouve entre la partie inférieure du.
Et d'ailleurs, il y a d'autres broyeuses, non pas de chocolat, chez Picabia. Ça broie beaucoup.
c'est un homme qui a su justement allier des dessins qui enfin, par leur essence, ne peuvent pas éveiller l'idée de l'amour. Enfin, c'est la route bicyclette de Duchamp.
Du désir. Bon.
Et pourtant, plus tard, ultérieurement, c'est ce mouvement de rotation qui servira de base à certaines productions érotiques de Duchamp. Et là, sur les dessins qui sont très beaux et qui illustrent la revue 391, ils sont tous à consonance amoureuse. Quelquefois c'est ouvert, des portraits espagnols qui s'appellent Novia, etc., des femmes qu'il a rencontrées là-bas, ou alors carrément, là il s'agit d'un moteur avec un ventilateur, et quelquefois c'est humoristico-érotique. Vous avez
la roulette.
Une ampoule électrique, n'est-ce pas, et puis en dessous il y a écrit allumeuse. Par allusion aux jeunes filles américaines qui ont fait marcher Picabia à New York sans arriver à lui accorder ce qu'il souhaitait.
On continue à parler de 391, qui est quand même la plus belle revue du XXe siècle.
C'est la plus belle revue du XXe siècle, absolument, et peut-être même du XXIe, tel qu'il s'annonce, en espérant que...
Mais que veut-il par là, avec cette revue, 391 ?
Mais je crois que ce qu'il y a de bien chez Picabia, c'est quelqu'un qui n'essaie jamais de prouver quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui s'amuse beaucoup, qui sait saisir l'injonction du moment présent, l'étincelle, et il l'appelle revue en voyage.
Et non mais... Pourquoi le choix d'une revue et pas le choix d'une toile ou d'un poème ? Pourquoi le choix de ce médium ?
Comment répondre à sa place, vu de l'extérieur ? Je crois que c'est pas si différent d'une toile. Je crois que quand on voit la façon dont il la concevait, c'est d'abord effectivement un espace plastique. Et je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de la prose du Transsibérien de Launay et Sandrard, ou de l'ordre des premiers recueils de Tsar avec harpe. Il y a un espace plastique qui est à l'œuvre. Et quelquefois, justement, on sent plus, je trouve que dans 391, on sent plus souvent l'espace un peu malarméen, finalement, de la disposition spatiale atomisée de la typographie, donc du coup de dé, que les textes mêmes. Et puis, évidemment, quand on lit les textes, ils sont tous extrêmement précieux, très, très intenses poétiquement. Et puis, il y a toutes les positions par rapport au Salon d'automne, par rapport au Salon des indépendants, par rapport à l'école cubiste qui avait donc exclu Marcel Duchamp. Parce qu'au fond, cette génération-là est celle qui se bat, qui s'est déjà battue contre le cubisme. C'est-à-dire que les dadaïstes, là, sont dans une position de... Les dadaïstes comme Duchamp et Picabia sont des gens qui ont déjà combattu le cubisme et qui sont dans un second combat, contrairement à des gens comme Tsara ou Breton.
Alors, comment se présente la revue 391 ?
Bon, d'abord, 391 n'est pas né comme ça. Ça a été, comme toujours chez Picabia, il a piqué quelque chose à quelqu'un et il l'a changé. Ça, c'est Picabia. Et ce quelque chose d'avant, c'était la revue 291, qui était la revue d'un galeriste, Paul Haviland, et de son ami Marius de Zayas, qui était situé justement au 291 de la 5e avenue. Donc au début, cette revue s'est appelée Camera Work parce que c'était une revue de photographie dirigée par le photographe Alfred Stieglitz. C'est devenu 291 quand la Modern Gallery a été créée sur la 5e avenue. Et puis Picabia est parti. Et il se trouve à Barcelone, et il a eu l'idée de lancer une revue, par ennui, l'ennui barcelonais. Dans aucune des revues de Picabia, je crois, il n'y a de longues dissertations telles qu'on en trouvera dans les revues surréalistes, pour justifier telle prise de position. Enfin, tout est un peu gratuit, et c'est ce qui en fait le charme. C'est ce qui fait qu'on peut le relire encore actuellement sans... risquer de s'ennuyer. Enfin, et naturellement, elles ont été beaucoup imitées. Je ne connais pas beaucoup de revues dites littéraires ou artistiques qui ne s'inspirent pas de ce qu'ont fait Picabia, Duchamp ou Tsara. Hein. Il y a toujours un petit élément provocateur. Il y a des poèmes qui sont, non pas comme dans les revues futuristes, des poèmes engagés. Il y a tout dedans. Ce sont des... enfin, Duchamp le disait, ce sont de charmantes poubelles, n'est-ce pas ? Alors, de même que quand il a fait son exposition chez Janis à New York, Duchamp a fait un catalogue sous la forme d'une grande feuille de papier Bible qui était froissée en forme de boule et qui se trouvait à l'entrée dans une grande poubelle. Alors on prenait le catalogue, il fallait... Je crois que ces revues, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on y trouve ce qu'on y cherche et souvent ce qu'on n'y cherche pas.
Il y a un esprit Picabia.
Oui, il y a un esprit Picabia. C'est vrai qu'il est seul à l'incarner, cet esprit. C'est cette légèreté, son sens de l'amitié, puisqu'au fond, c'est lui qui fédérera régulièrement les dadaïstes entre eux et qui fera la jonction entre les dadaïstes et bien d'autres gens. Cette très belle toile qui s'appelle L'œil cacodilate, il la pose au bœuf sur le toit, avec des pinceaux et des pots de peinture, et tous les amis sont invités, quand ils passent, à ajouter un mot. Une phrase, un dessin, et donc ça finira par être une très belle toile collective qui se trouve au Musée national d'art moderne. Mais donc c'est un personnage qui a pris tout le temps comme ça les choses très très. La fin de Picabia est aussi très très émouvante parce que vous savez que au moment de son décès, il avait converti tous ses biens en bijoux. Je ne sais pour quelle raison, il y avait des craintes sur l'économie, etc. Et tout ça lui a été dérobé. Picabia est mort extrêmement pauvre. Comme il arrive souvent dans ces cas-là. Cette nécessité de dépouillement total, il est arrivé aussi par cette curieuse situation biographique.
Vous ne trouvez pas que Picabia plutôt est quelqu'un de très doué et qui va très vite?
Oui, doué.
Qui a tous les dons?
Oui, ça, il a beaucoup de dons.
Pas tous.
Je ne saurais pas dire ce qu'il n'a pas. Enfin, il a beaucoup de dons. Il va très vite, oui. Ça, c'est vrai que beaucoup de ses travaux font penser à des choses qui ont été faites dans l'après-midi, pour passer une bonne après-midi, pour être absent, pour ne pas avoir à parler avec les gens qui sont là, enfin, pour se retirer un peu. Et ça ne va pas au-delà. Il ne les reprend pas le lendemain. On n'imagine pas Picabia travaillant comme Picasso, reprenant un tableau, le changeant, ainsi de suite, à la recherche de je ne sais quel mystère des formes. Il peint très vite, ce qui lui donne d'ailleurs, ce qui fait que lorsqu'on voit des tableaux de Picabia dans une exposition, ils vieillissent moins bien, ils vieillissent mieux que les autres parce qu'ils restent toujours jeunes, ils sont de premier jet comme ça, ils sont pas fatigués par un métier qui serait d'époque.
Je reviens à la revue 391, parce qu'apparemment vous ne réagissez pas beaucoup.
Ah.
Mais un artiste qui a tous les dons,
oui.
Qui se met en tête de créer une revue.
Oui.
Et cette revue va l'accompagner. Il est à Barcelone, il fait paraître les numéros à Barcelone. Il est à New York, il fait paraître 391. Il est à Zurich, malade, il fait paraître un numéro.
Oui, il y tient, oui, c'est sûr que ça...
À Paris, de nouveau, il continue.
D'abord, disons...
Il faut dessiner.
Que c'est pas possible.
Il faut écrire les poèmes, il faut les mettre en page, il faut trouver l'imprimeur...
Bon, j'imagine que autrefois, les imprimeurs étaient encore des artistes. Donc, la relation entre artistes et imprimeurs pouvait se faire. Vous savez, imprimer 391, c'était incroyable, parce que si vous allez donner ça à un imprimeur de nos jours, il vous en va promener. Il y a un tel travail là-dedans qu'il ne le fera pas. Donc, il fallait déjà qu'il y ait dans la profession cette possibilité. C'est vrai qu'il fallait prendre des contacts nombreux avec les gens, c'est vrai qu'il fallait dévorer de l'espace. Mais en fait, n'oublions pas quand même que moi, je vois Picabia comme quelqu'un qui n'a pas de travail. Il peut mener sa vie comme il veut. Il a l'argent pour cela. Il faut aussi qu'il remplisse le vide de sa vie, en fait. Hein.
C'est dur ce que vous dites.
Oui, c'est dur. Oui, c'est dur. Non, je suis sur une pente, là, savonnée, parce que...
Pourquoi est-elle dure? Pourquoi est-elle vide?
Vide, pardon?
Mais sa vie.
Enfin, c'est le... Ils ont été nombreux, je pense, à cette époque. Ces sortes de fils de famille. Mais tous n'ont pas eu l'activité de Picabia, hein, ce qui prouve quand même que l'autre amène quelque chose. Hein. Mais ils étaient assez nombreux, ces fils de famille dont les parents avaient fait fortune dans X disciplines, et qui avaient un temps libre devant eux énorme. Et bien sûr, ils allaient sur la côte, ils rentraient à Paris, ils faisaient la saison des casinos, ils rentraient à Paris, l'opéra, ainsi de suite. C'est quand même un circuit, enfin, un type d'homme que l'on voit.
Pourquoi vous lui en voulez?
À Picabia? Non, je crois que je... D'abord, vous savez, quand on est artiste, et qu'on vous demande, comme vous l'avez fait, de parler de notre artiste du temps passé, comme ça, on se demande toujours, mais voyons, cet artiste, est-ce que j'ai une relation avec lui? Et en venant, là, je me suis dit, mais c'est évident que je n'ai aucune relation avec lui, c'est impossible. Nous ne venons pas du même monde, comme on disait autrefois. Sans doute, moi, si j'avais vécu du temps de Picabia, je l'aurais pas aimé comme personnage. J'imagine que... Enfin bon, ne disons pas ça. Mais par contre, moi qui n'ai pas eu de père, si j'avais à chercher comme ça une figure idéale, je me contenterais bien de Picabia comme père. Parce qu'il est beau, il a une belle peau, il a de l'argent, il fait un peu ce qu'il veut, il est cosmopolite. Enfin, il a plein de choses qui feraient que j'aurais été un fils admiratif.
Thank you. quelqu'un qui travaille, selon vous, qui a le souci d'une journée, la construction d'une journée, ou c'est quelqu'un qui vit selon des pulsions, ou qui parvient à les maîtriser?
Je pense que vous posez une question qui est très vaste, parce que l'usage justement des stupéfiants dans les moments cruciaux de la vie de Picabia au début pose un peu cette question de jouer avec le désir, avec le temps, avec la façon de nouer ses relations avec l'autre, aussi avec les femmes, parce que ça n'est pas un mince aspect de la vie de Picabia, puisque pendant la courte période que dure le mouvement Dada, il a trois compagnes différentes. Et toutes trois d'ailleurs ont écrit un livre à son sujet par la suite. Et lui-même d'ailleurs est quasiment le seul à n'avoir absolument pas laissé le moindre texte autobiographique. Ce qui en dit long effectivement sur sa façon de vivre les choses, d'avoir refusé absolument qu'elles se fixent, qu'elles s'historicisent. C'est en ce sens-là, oui, c'est sans doute un dadaïste qui a su jouer l'éphémère à chaque moment. Je crois qu'il a refusé systématiquement de se retourner sur le passé. On le sent très bien dans cette très belle revue qui est 391, mais aussi dans sa vie ultérieure. C'était quelqu'un qui a effectivement voulu beaucoup vivre et jouer et s'amuser avec ce fond de désespoir qu'on aperçoit à plusieurs reprises dans le... Enfin, comme tous les personnages suicidaires, c'était aussi un personnage qui était extraordinairement épris de la vie, si j'ai bien compris Picabia. Il y a cette très belle, quoi encore, mais évidemment, c'est cette merveilleuse conférence d'Arthur Cravan qui s'est déshabillé ivre lors de sa conférence aux indépendants de New York, et en fait, tout ce coup-là, il est entièrement monté par Picabia. Et là, on voit que Picabia était quand même un esprit assez retors, qui était capable de concurrence aussi, malgré tout, puisque il était tout de même assez mari du succès remporté par l'urinoir de Marcel Duchamp, et c'est donc dans la foulée qu'il décide de convaincre Cravan de donner une conférence. Et bien entendu, ils vont à l'hôtel Brevoort auparavant, où ils enivrent copieusement Cravan, et où, au fond, un peu comme une mariée mise à nu par son célibataire, Cravan devient l'objet et se prête, comme il l'a souvent fait, du reste, lors de ses combats de boxe, etc., à une espèce de volonté de scandale que Picabia n'assume pas pour lui-même, qu'il projette sur Cravan. Et Cravan se lance, à la fois par amitié et par tempérament personnel, dans le panneau. Il est arrêté, il se retrouve à 8 jours, Arensberg doit payer la caution. D'ailleurs, il y a des contradictions dans les souvenirs de Gabriel Buffet-Picabia dans la presse de l'époque. Suivant les cas, il aurait été libéré immédiatement et sinon seulement après 8 jours. Ça, c'est un côté du côté joueur et pervers de Picabia. Il en a... Quoi d'autre? Vous savez que la plaisanterie favorite de Picabia était de téléphoner à des personnages qu'il connaissait en déguisant sa voix et en disant « Cher ami, votre petite combine est découverte. » Ensuite, il raccrochait. Donc c'est quelqu'un qui aimait beaucoup s'amuser aussi.
Picabia aimait à peindre ce qu'il pensait du moment. Il s'en fichait de ce qu'on dira et ce qu'il a déjà fait. Tout ce qui l'intéressait, c'est ce qu'il fera demain.
Olga Picabia.
Ce qui était derrière lui, il disait toujours, c'était un enfant qui doit faire sa vie lui-même. Il aimait jouer, même avec le feu, et il aimait le jeu dangereux et le jeu pour le jeu très sérieusement, comme un enfant.
Vous avez rencontré Francis Picabia dans quelle année?
En 25. 1925.
À Cannes?
Oui. Et maintenant, ça fait déjà 40 ans qu'il est mort. Et je m'occupe de lui encore plus que jamais. Pour le catalogue, toujours. Il faut trouver tous ces tableaux qu'il a faits avant moi et même pendant que j'ai vécu, naturellement, je les connais, je les reconnais. C'est certain.
Vous alliez souvent le voir dans l'atelier, enfin dans l'intimité de l'atelier?
On vivait dans l'atelier, presque, oui. Oui. Mais souvent, il n'aimait pas que quelqu'un bouge à côté de lui, alors je n'y étais pas.
Peut-être faire un portrait de Francis Picabia.
Un portrait. Je peux vous dire que c'était un homme pas comme les autres. C'était un prince. Qu'est-ce que vous voulez savoir encore? C'est ce qu'il y a de principal.
Qu'est-ce que vous pensez de ce tableau?
Ah, c'est très connu, ça, oui. Le personnage avec les allumettes, là. La femme aux allumettes 2. C'est très frais.
C'est une femme.
C'est une femme. Il y a toutes sortes, sans doute, de jeux de mots, là, derrière. Enfin, hein, parce que les allumettes, les femmes allument, quoi. Enfin, peut-être y a-t-il des choses comme ça derrière.
La chevelure est faite d'allumettes.
Oui, oui, oui. Il introduit d'ailleurs dans l'univers artistique, il introduit un certain nombre de produits comme ça. Par exemple, quand je pense à Picabia, je pense automatiquement au mot caoutchouc. Pas seulement à cause du tableau abstrait qu'il a fait. Ça me paraît très synonyme quoi, de Picabia. Les allumettes, bien que le paquet de tabac était déjà chez les cubistes, hein, une vie assez quotidienne comme ça, quoi. C'est très léger, cette espèce de ligne sinusoïdale qui serpente le long de la diagonale. D'ailleurs, c'est le serpent, ça encore. Hein, la sexualité se faufile, là, c'est sûr. Ça ferait une image publicitaire extraordinaire. Les publicistes sont loin de ça de nos jours, mais ça ferait une image publicitaire extraordinaire. Elle est vue de face, elle a les lèvres peintes, elle a un lourd collier de perles, elle a les cheveux ni courts ni longs, elle n'a pas d'âme. Hein. Mais elle est drôle pourtant, elle est très drôle. C'est quelqu'un qui doit... Vous savez, c'est une de ces femmes sans doute qui fait le ménage et qu'on entend dans son appartement qui chante... Les chansons entendues à la radio, qui est très gaie, qui dit toujours des choses légères, comme cela. Papillon. Je me demande s'il n'y a pas des épingles à cheveux, si, sans aucun doute, pour le nez et pour les deux yeux. Il faut dire qu'on est on est en 1924-25, c'est la pleine période d'assemblage hein, chez Picasso. Hein, c'est le moment où lui aussi utilise des morceaux du réel pour fabriquer des sculptures. C'est un tableau que j'aurais plaisir à avoir. Hein. 92-73, un tableau d'appartement. C'est sûr qu'on n'est pas morose en le regardant. C'est certain que dans une exposition où il y a beaucoup de tableaux, il doit vite être aperçu et retenir l'attention. Là, c'est les qualités de Picabia. C'est cet homme qui, sans doute, est déclenché par quelque chose, instantané comme ça. Il se met à un travail qui demande peu de fabrication. Et à la fin de l'après-midi, ça y est, il est disponible pour aller à la plage, pour s'occuper de ses amours. Alors tout ça, évidemment, reste positif dans la peinture. Il n'y a pas de travail, c'est pas lourd, ça a été fait sans reprise.
C'est dérangeant pour quelqu'un qui doit beaucoup travailler. Toute la matinée, tout l'après-midi, et parfois même quelques soirées.
Oui. Il y a de nombreux exemples hein, de tableaux faits en très peu de temps. Hein. Dans l'histoire de l'art, il y en a beaucoup, vraiment. Mais ça reste un problème pour les artistes, ça, de savoir s'arrêter, pas aller trop loin.
Toujours en faire moins, mais comment?
C'est sûr que s'arrêter, c'est embêtant, parce qu'il faut penser à ce que vous allez faire de votre vie.
L'idée commune admet que pour faire un tableau, il faut de la toile, des pinceaux et de la couleur. Cependant, sur certaines toiles, vous avez collé les objets les plus divers. Des peignes, des chalumeaux. Mmh. Pourquoi ?
Mais écoutez, une fois j'ai rentré chez moi, j'habitais la campagne, en automobile avec mon chauffeur, et j'ai trouvé une invitation d'exposer. N'ayant pas de couleur, j'ai demandé à mon chauffeur d'aller m'acheter, n'est-ce pas, du ripolin, des chalumeaux de bar, des cure-dents, et j'ai pu faire une nature morte que j'avais vue, une nature morte, c'est-à-dire des fleurs que j'avais vues, n'est-ce pas, avec ces chalumeaux, et c'est tout, n'est-ce pas, surtout. Et je voulais sortir des moyens conventionnels de la peinture, de toujours faire la même chose.
Et vous avez employé jusqu'à des espadrilles.
Oui, j'ai fait des bateaux, des rentrées de bateaux.
Oui, à votre dernière exposition, il y avait plusieurs toiles, justement, de cette époque.
Oui, chez Drouin, j'avais un tableau très ancien, comme ça, oui.
Oui, en effet. Et il y avait un autre tableau qui a beaucoup intrigué les spectateurs. Ce tableau consistait dans un cadre, mmh. Et à l'intérieur de ce cadre étaient tendues 4 ficelles.
Ben, ce tableau était fait pour être suspendu dans un salon, dans une pièce, n'est-ce pas ? Et alors les ficelles...
Mais suspendu contre un mur ?
Ah non, pas contre un mur, il devait rester en transparence, puisque les ficelles accompagnaient le mouvement de ce qui se passait derrière et faisaient un tableau.
Mais on ne pouvait donc mettre ce tableau qu'à un seul endroit.
Alors on pouvait mettre à plusieurs endroits, mais toujours suspendu et pas bouché par le mur.
Mais ça est destiné à partager l'espace en volume.
Parfaitement.
Il s'agit quand même d'un tableau, c'est le pot de fleurs. Déjà, rien que le titre, c'est quelque chose, hein. Le pot de fleurs, mais il est très très élaboré ce tableau. Il a, quand je dis qu'il est quand même très élaboré, le choix de la peinture Ripolin est particulièrement judicieux parce que ça va tellement bien avec les pailles, les bouts de ficelle et les tortillons de fil de fer. S'il avait employé de la peinture à l'huile traditionnelle, ça aurait été une catastrophe.
Bertrand Lavier.
Il y a stylistiquement, et encore de façon paradoxale, une manière de retrouver, quelles que soient les périodes ou les tableaux, une variable quand même très picabienne ou picabiesque. Non, parce qu'il y a une vertu comme ça très, très acide. Je crois que les tableaux néo-impressionnistes, c'est peut-être là où c'est le plus difficile de reconnaître un picabia. Mais on devrait sans doute y arriver. Et quand il y a un déficit, justement, qu'on pourrait appeler un déficit d'insolence, eh bien, savoir que Picabia était là, c'est pas mal. Oui, mais enfin, moi, je crois que ça a toujours été très difficile de faire n'importe quoi. Hein ? C'est vrai.
Mais où est le scandale chez Picabia dans certaines toiles de Picabia ?
Bon, si vous voulez, là, faisons un peu de chronologie. Les premières ne sont pas scandaleuses, vraiment. Bon, les premières toiles dites abstraites, comme Caoutchouc, 1909, sont des toiles qui sont à la limite du figuratif et de l'abstrait. Il a simplement... évoluer peu à peu vers justement l'art mécanomorphe que nous connaissons, les toiles comme cette toile que vous avez vue sans doute à Venise à la Fondation Guggenheim, le très rare tableau sur la Terre qui est un magnifique tableau mécanomorphe. Bon, j'ai moi-même dans ma collection des Picabia de cette époque-là qui sont des gouaches, qui sont uniquement des épures d'ingénieurs, d'étudiants de grandes écoles technologiques que Picabia avait acheté en stock parce que le papier était rare à l'époque, vers 1917, et là-dessus il a repris tout ça à la gouache en transformant le titre et donc le sens, si vous voulez, de la toile. Et on a des tableaux qui sont des tableaux à la fois des provocations, qui sont presque des ready-made, puisqu'il est parti de quelque chose qui n'était pas de lui. Et ensuite, il a fait comme il l'a fait très souvent pour les titres de ses tableaux. Il a pris des formules, par exemple, dans les pages roses du Petit Larousse, et il les a légèrement altérées, et on s'en est aperçu que très rarement, je crois que c'est Revaud d'Allonne qui a une vingtaine d'années où, s'est rendu compte de cette volonté de détournement créateur.
Est-ce que vous pourriez essayer de décrire justement cet aspect un peu mécanique de la peinture de cette époque?
Bon, d'abord historiquement, c'est le contact avec les États-Unis, le fameux Armory Show de 1913, qui a fait prendre contact entre, d'une part, Picabia et Duchamp, et d'autre part, entre les deux amis et l'Amérique. L'Amérique de la fin de la grande époque industrielle, c'est-à-dire où la machine est omniprésente, et la machine, je dirais, mécanique, hein, la machine du 19e siècle. C'est-à-dire des choses qui font du bruit, un petit peu le Nikita Saint-Phal ou le d'Ottingley, hein. Bon. Donc, cette situation industrielle a été en quelque sorte absorbée par Duchamp et par Picabia, et ils ont intégré dans leur tableau des éléments qui sont des éléments d'origine mécanique. Étant bien entendu qu'il ne s'agit pas, comme les futuristes, de représenter la machine comme l'idéal de demain, et de faire des reproductions de machines. Elles ne marchent pas, leurs machines. Elles sont incapables de fonctionner, aussi bien celle de Duchamp que celle de Picabia. Alors, le fameux très rare tableau sur la Terre que j'évoquais tout à l'heure, vous voyez bien qu'il s'agit de masses qui ont une allure mécanique qu'on aurait pu retrouver à un certain moment chez Léger, mais vous n'arriverez pas à les faire marcher. Et ça a été le problème de toutes les tentatives de Duchamp et de Picabia pendant leur liaison, entre guillemets, à New York, n'est-ce pas ? C'est de faire en sorte qu'on utilise des instruments donc inhumains, non humains. La jeune fille dans l'état de nudité, titre de tableau, n'est-ce pas, qui représente une lampe, une ampoule électrique, des choses comme ça. Bon, il y a donc un divorce très duchampien entre ce qui est représenté et le titre qu'on donne. Vous vous rappelez que bon, les premiers ready-made de Duchamp, ce sont des objets produits par la machine industrielle, quelquefois des machines elles-mêmes. La pelle à neige, le porte-bouteille, la roue de bicyclette, tout cela, pour Duchamp, représentait quelque chose d'extrêmement important. La fontaine de 1917, n'est-ce pas, qui est un urinoir incliné, c'est-à-dire posé à plat, et qu'il a présenté sous le nom de Richard Mutt, bien qu'étant lui-même membre du jury. Eh bien, cette chose-là est un produit parfait de la civilisation américaine, de l'époque. C'est le moment où toutes les maisons américaines se dotent de ce qu'on appelle le plumbing. Duchamp l'a très bien décrit dans le Blind Man, et il a dit « The only works of art America has ever produced are its bridges and its plumbing. » Le plumbing, c'est le sanitaire. Et le sanitaire, c'est la civilisation moderne. Et Duchamp, transmute tout cela en œuvre d'art. Alors, vous vous rendez compte, aussi bien pour Picabia que pour Duchamp, la réaction à la fois de tous les milieux. Donc, il y a aussi bien des autres peintres. Alors, il y a ceux qui vont suivre. Et ça arrive naturellement au moment du mouvement Dada, ça. Donc qui se crée une espèce, comme un essaim d'abeilles, une espèce de satellisation d'un certain nombre de gens qui sont passionnés, fascinés par ce qui arrive autour de Duchamp et de Picabia. On n'a jamais vu auparavant. Plus tard, quand les surréalistes, prenons Max Ernst, pour un marchand de tableaux, il n'y a pas de différence fondamentale entre Max Ernst et un Rembrandt. On le vend au point et ça représente un fonds de galerie comme un autre. Comment allez-vous vendre une pelle à neige ou un porte-bouteille? Il se trouve que tout prend place dans le marché de l'art. Le porte-bouteille... mais rappelez-vous également que Duchamp a dit se servir d'un Rembrandt comme planche à repasser. C'était l'idéal, donc la transformation totale de la peinture.
Comme les saccades du somnambulisme, trop tard dans ma vie d'alchimiste, car l'image de soi gravite dans le suicide. Ce recueil, poèmes et dessins de la fine et sans mère, je dédie cet ouvrage à tous les docteurs neurologues en général, et spécialement au docteur Collins, New York, Dupré, Paris, Brunschweiler, Lausanne, terminé à Gstaad, 5 avril 1918. Mais donc, c'est Picabia est celui qui écrit... ce recueil de poèmes, soudainement, il est en Suisse, à Lausanne, à Gstaad, et il écrit 4 recueils d'un seul coup. Il n'avait jamais écrit auparavant. Et il écrit tout ça avant d'avoir seulement lu quoi que ce soit du mouvement Dada, puisque la revue Dada, elle a été fondée au début 1918. Donc c'est antérieur. Ça, ça donne une dimension très étonnante du personnage. Voilà quelqu'un qui arrive de New York, il doit aller dans une clinique pour se soigner, il écrit 4 recueils de poèmes. Ensuite, il va voir Tsara, il lui dit « mais venez à Paris ». C'est là qu'il compose ce réveil matin, c'est très beau. C'est la couverture de Dada 3. Et Harpe a très bien raconté la chose dans Dada Land, un texte qu'il a publié en 48 dans On My Way. Il raconte la façon dont Picabia a défait un réveil et trempe les rouages dans l'encre, et est en train de composer le dessin sur une grande feuille de papier. Et puis il signe ça, et ce sera la couverture de Dada 3. Ça, c'est évidemment la merveille de ce mouvement, c'est ça, c'est Tsara et Harpe arrivent à l'hôtel, Picabia fait sa page, et puis c'est Dada 3 qui sort 3 semaines après, et puis Tsara arrive à Paris. Il y a effectivement quelque chose qu'on n'imagine plus aujourd'hui, un côté international, les gens circulent, font des dessins, on imprime les choses, on avance, on fait les choses, et c'était évidemment très précieux, et sans doute sans retour.
François Esquet, vous travaillez aux éditions Alia qui viennent de publier 3 livres de Francis Picabia, Poèmes et dessins de la fille née sans mère, Jésus-Christ Rastaquer, Unique Eunuque. Vous avez 27 ans, et alors la première question c'est pourquoi vous intéressez-vous à Francis Picabia ?
Je m'intéresse depuis assez longtemps à Francis Picabia. D'une part parce que, un petit peu comme tous les jeunes gens, à 17 ans, 18 ans, on plonge dans le dadaïsme, le surréalisme, toute la littérature un petit peu de la révolte, la littérature qui plaît, qui motive. Et c'est une passion donc, que j'avais depuis une dizaine d'années et qui n'a absolument pas faibli. Et à lire et relire les textes de Picabia sur toutes ces années et puis maintenant à les publier, on s'aperçoit qu'ils restent, ils gardent toute leur force depuis les années 1920 dans lesquelles ils ont été écrites. Aujourd'hui, en 1993, ce sont les mêmes textes qui ne sont pas rentrés dans l'histoire littéraire qui ne sont pas dans toutes les anthologies, dont la force n'a pas été émoussée par des tas de gloses, et donc il est important de remettre à la disposition du public aujourd'hui. Les poèmes, ils sont en même temps que les dessins, et ils font partie, si vous voulez, de cette grande sorte de fabrique d'énergie extraordinaire qu'était Picabia. Puisque ces trois livres, ils paraissent en deux ans pratiquement. Unique Nuque paraît la même année que Jésus-Christ Rastaquer. Il y a entre les deux livres un abîme pratiquement. Et donc l'écriture chez Picabia, elle n'est pas en retrait de la peinture, elle l'accompagne. Et il est à un moment où il est dans une phase donc, de grande expérimentation, où il ressent le besoin de s'exprimer un petit peu tout azimut. Et ces textes que nous rééditons maintenant représentent la pointe de la pensée de Picabia et également de son écriture. Mais l'écriture des trois livres est tout à fait différente. On retrouve dans les poèmes et dessins une forme assez classique, et tandis que Unique Nuque, il a franchi complètement le pas.
C'est un long poème.
Un long poème. Est-ce qu'on peut encore appeler ça un poème? C'est difficile à dire. En tout cas, c'est quelque chose qui doit être...
Ce serait quoi, selon vous?
C'est un poème... On peut appeler ça un poème, puisqu'on n'a pas d'autres mots à notre disposition. Mais disons que ce sont des phrases qui se suivent, certaines avec des petits développements, parfois d'autres phrases qui viennent s'intercaler, des phrases absolument banales. Il y a des collages comme ça. Et c'est quelque chose qui défie un petit peu toute explication. C'est ce que le sens, il fait préfacer Unique Nuque par Blaise Pascal. Et la préface de Pascal est justement une remise en cause du jugement. Et puis également dans la préface de... Jésus-Christ Rastaquer, Gabriel Buffet, dit qu'il faut se déshabituer de l'habitude de chercher des explications. De même, quand il avait peint le portrait de je ne sais plus qui, ça représentait simplement une roue, avec des dents crénelées comme ça. Et il disait, si je fais un portrait qui représente une roue, on ne va pas me chicaner sur la ressemblance. Si je fais un portrait plus ou moins figuratif, on pourra toujours dire c'est ressemblant, c'est pas ressemblant. Alors il met une roue. Et le poème Unique Nuque, donc, auquel on peut trouver des sens, mais qui est quand même très, très déconcertant. Il commence par quand même cette première phrase qui est « Essayons l'heure actuelle hein, », le moment. Donc c'est toujours ça la position de Picabia, « Essayons l'heure actuelle ».
Les poèmes de Picabia sont faits de quoi? Par exemple un poème comme « Unique Nuque ».
Alors, il y a un élément qui est dadaïste ou proto-dadaïste, c'est le hasard. Hein, c'est l'aléatoire, le stochastique, on fait de la poésie avec n'importe quoi. Bon, et c'est ce en quoi les poèmes, entre guillemets, de Picabia, et notamment ceux qu'il a fait en collaboration avec Tsara Zurich, c'est-à-dire qu'ils ont fait un poème qui a été publié dans... je ne sais si... 391 ou Dada 3 ou 4, je ne me rappelle plus. Mais enfin, c'est un poème qui a été fait sur une même feuille de papier, de part et d'autre d'une table, Picabia d'un côté et Tsara de l'autre, et ils ont décrit un poème double. Donc, c'est les premiers champs magnétiques, hein, c'est le poème en collaboration.
Ça veut dire quoi, Unique Nuque?
Oui, non, mais c'est pas innocent, bon, bien sûr. Tous les poèmes, que ce soit ceux de Duchamp, ceux de Picabia, sont des poèmes à vocation érotique. Alors, bon, c'est. D'ailleurs, il y en a certains qui ont été repris dans l'art du contrepaix de Luc Etienne. Hein, je crois que la contrepaix. D'ailleurs, Rose, c'est la vie de Marcel Duchamp, c'est un recueil de contrepaîtrie. Encore une fois, bon. Pour Picabia, les mots ne jouent pas, c'est vrai. Rien n'est innocent, donc il n'y a pas de jeu. Hein. Mais simplement, il y a probablement le désir profond, une impulsion vitale, un besoin d'expression, qui fait qu'il ne peut à cette époque-là s'exprimer que comme cela. Et à ce moment-là, je crois qu'il laisse courir la main, il laisse courir la plume. Et il ne corrige que très peu. Moi, j'ai vu les épreuves, il y a très peu de corrections.
Il y a aussi cette chose étant Picabia Picasso. Visiblement, il ne faut pas s'appeler Dupont quand on veut faire de la peinture. Alors, c'est vrai que chez Picabia, on s'est focalisé sur certains aspects très... très peinture, mais il y a des tas d'aspects. La danse de Saint-Guy, donc c'est un tableau dont il garde le cadre, et puis il a traversé par des cordages et puis une étiquette. Donc une espèce de squelette de ce que c'est qu'un tableau. On a tendance à voir Picabia comme quelqu'un qui sort assez rarement du tableau. C'est vrai que de Udny à la Terre est ronde, c'est d'abord quelqu'un qui reste un peu prisonnier de ce que Duchamp a appelé à juste titre, enfin, le rétinien et la térébenthine. C'est cet aspect-là qui joue contre Picabia. Mais ce que je trouve par contre très riche chez lui, c'est la façon dont il reprend un certain nombre d'éléments formels et il en joue. Alors il y a quelque chose qui paraît peu sérieux dans l'œuvre quand il reprend des éléments de la grammaire formelle de Malevitch ou du constructivisme, un carré, un cercle, et il les pose là d'une manière apparemment totalement dilettante, justement. Et puis on s'aperçoit avec la formation du regard, mais comme vous le savez, on commence seulement maintenant à voir un peu ce que c'est que le constructivisme. Justement, c'est dans la mesure où maintenant on parvient à voir à quel point une œuvre de Schwitters ou de Malevitch est réellement formée, qu'on peut voir le décalage qu'instaure Picabia en reprenant ses éléments et en en jouant. Je dirais un peu comme chez un certain Kandinsky, on voit soudainement flotter des éléments abstraits, plastiques, purs, en se disant, mais bon, tout de même. Et, alors là, si on oppose en cette période-là de Kandinsky à ces quelques toiles, il y en a une vingtaine de Picabia, je dirais que Picabia est beaucoup plus fort quand il reprend, parce que lui, au fond, il est dans une opération de décalage très volontaire et... De citations et d'ironie dans la référence, qui fonctionne très bien. Mais j'ai tendance à dire qu'on le voit aujourd'hui parce qu'on ne pouvait pas le voir auparavant, dans la mesure où on ne voyait pas Malevitch non plus. Je crois qu'il y a encore 10 ans, on ne savait pas très bien si Malevitch devait être vu comme un Vasarely ou tel qu'on, soudainement, on peut enfin voir comment c'est construit parce que le regard s'est formé. Et alors là... La question qu'on peut se poser, on se la posera peut-être toujours, c'est comment Picabia voyait les Malevitch de l'époque et comment lui opérait cette transposition.
Vous êtes où, vous ?
Et moi, je suis... L'art s'est démocratisé. Moi, je suis une sorte d'artiste démocrate. Je vais ajouter quelque chose. Il y a une image, peut-être la plus belle photo que je trouve de Picabia, c'est celle qu'il représente en 1940. Il est assis sur une bicyclette pliante. Or, je ne sais pas vous, mais moi j'ai entendu parler des bicyclettes pliantes à la fin des années 50, jamais cela avant. Lui, en 40, a un modèle extraordinaire, et sur son porte-bagage, il y a un petit chien. C'est une image que je trouve très jolie. Et mieux que ça, il a au pied les fameuses chaussures qu'on portait pendant la guerre à semelles compensées, là, à semelles de bois. Et là, ce sont des semelles très épaisses, mais elles sont, pour le peu qu'on en aperçoit sur la photo, elles sont d'un chic. il est pieds nus là-dedans. C'est une belle image d'artiste, enfin. Puis il me semble qu'elle résume beaucoup. La bicyclette pliante, c'est... Après, quand même, les voitures supersoniques, c'est quand même qu'une bicyclette, mais il trouve quand même la bicyclette la plus nouvelle. Il est à l'affût hein, des choses qui passent, quoi. Et puis, il est bronzé.
En 53,
oui.
Et Duchamp lui envoie un télégramme.
Oui. Et le fameux télégramme auquel vous faites allusion, Duchamp envoyait toujours des télégrammes à ses amis qui. Enfin, à la famille des amis qui mouraient. J'allais dire à ses amis qui mouraient, oui. Picabia ne pouvait pas mourir. C'est la raison du télégramme. C'est. Picabia, c'était la vie même. Enfin, ça représentait pour Duchamp, qui était, par rapport à Picabia, un homme relativement, je ne dis pas faible de tempérament, mais enfin, qui était mince et très réservé, alors que Picabia était l'énergie incarnée. Alors voir disparaître Picabia avec cette puissance potentielle qui est en lui, c'était inconcevable. Et c'est ce que j'ai retenu de ce moment-là, que Duchamp ne pouvait pas admettre. Et d'où son recours au télégramme. Il a écrit des quantités de télégrammes, Duchamp. Hein. Il écrivait très très souvent. Vous vous rappelez l'exposition d'Ada à laquelle il ne voulait pas participer. Breton lui avait demandé, etc. Et il a envoyé un télégramme qui disait simplement « pot de balle ». P-O-D-E-B-A-L. Hein. C'est tout.
La chose la plus émouvante, quand Picabia est en train de mourir, Marcel lui envoie de New York à bientôt.
Qu'est-ce qu'un artiste ?
Eh bien, un artiste, c'est un homme qui mange du feu, qui peut avaler du feu. Et je crains bien que les savants et les théories ne sachent pas avaler du feu.
Francis Picabia, 1879-1953. Marc Dachy, Michel Sanouillet, Jean Legac, Bertrand Lavier, Caron Boulbès, Francis Esquin, Olga Picabia. Voix de Marcel Duchamp et de Francis Picabia, Archives INA. Pierre Monteil, Monique Burguière, Claude Giomenetti, Jean Dev.